Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Votre invité ce midi, c'est Velma Falayo, la nouvelle présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir répondu à notre invitation au lendemain de votre élection qui fait véritablement l'actualité. Alors d'abord, comment allez-vous depuis hier ? Ça change beaucoup de choses d'être élue présidente du Congrès. Vous avez réalisé, vous avez un emploi du temps chargé, on imagine ?
Toujours pas réalisé, mais être déjà dans le costume de la présidence du Congrès, oui, un emploi du temps chargé et beaucoup de choses à voir. Donc, c'est que du positif.
Merci en tout cas de vous être libérée pour ce magazine Transparence. Tout de suite, comment s'est décidée votre élection ? Quand cette stratégie a-t-elle été mise en place avec la démission notamment de Vaïma Mouliava, qui était un élément essentiel, on l'a expliqué, pour que vous puissiez bénéficier d'une majorité. Ça s'est décidé quand ?
Il y a, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai, un contexte très difficile dans le pays. L'éveil océanien qui est arrivé dans l'échiquier politique avec 3 voix et une place centrale. On nous a appelé la charnière, les faiseurs de rois, faiseurs des démocraties. Il était important pour nous, à la fin de cette mandature de l'accord de Nouméa, de retrouver cette place. Il n'y a pas eu de calcul ni de stratégie. C'est simplement à un moment donné où la Calédonie va mal. L'éveil océanien a voulu se replacer au centre, cette fameuse voix médiane.
Ah, vous avez été élu avec 28 voix, une majorité éveil océanien, loyaliste, rassemblement et Calédonie ensemble. Qu'est-ce qui vous réunit ? On a envie de vous demander si c'est un front anti-Roquemitant qui a été constitué.
Les collègues qui se sont prononcés en faveur de ma candidature hier se sont exprimés, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est leur choix, nous avons pris acte, nous prenons aujourd'hui nos responsabilités. Je pense qu'ils ont considéré cette troisième voie que nous portons depuis 2019. Pour nous, c'est simplement le fait aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un dynamisme, une volonté de reconstruire, une volonté aussi de se rassembler. Et je pense qu'être aujourd'hui à la tête du Congrès, c'est aussi l'opportunité pour moi et pour le mouvement que je représente de faire preuve d'initiative, notamment sur la question de l'avenir institutionnel.
On va y venir, mais vous aviez constaté vous-même qu'il y avait ce rejet d'un certain nombre de prises de position, de déclarations, d'attitudes de Roquemitant.
Oui, après, je ne suis pas là pour en discuter, Elisabeth. Chacun a ses positions. Il y a des choses, effectivement, qui se sont passées dans le pays, et notamment pendant la mandature, qui n'ont peut-être pas plu. La démocratie a parlé hier. Nous en prenons acte et nous faisons face à nos responsabilités.
Alors, dans vos premiers mots, dans votre discours hier, juste après votre élection, vous avez évoqué l'expression de majorité océanienne. Est-ce que vous y avez cru, à cette majorité océanienne ? Et quel sens est-ce que vous lui avez donné ? Et est-ce que vous avez été déçu finalement que ça ne marche pas ?
La majorité océanienne, c'est un terme qui a été utilisé par notamment le président sortant Roquemitant. Hier, simplement, dans mon allocution, je voulais expliquer que l'Océanie, pour nous, n'est pas une ethnie. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où nous devons travailler ensemble. C'est en fait, en tout cas, le travail que nous avons fait. Travailler avec des indépendantistes ne fait pas de nous des indépendantistes. Travailler avec les loyalistes ne fait pas de nous des loyalistes. À travers ce discours, à travers cette définition, je voulais simplement dire qu'il y a des valeurs de la République qui font écho à celles du Pacifique et qu'il est temps aujourd'hui que nous travaillions ensemble dans la même direction.
Mais vous n'avez jamais cru à une majorité basée sur les ethnies que sous-tendait un peu l'expression majorité océanienne, quoi.
Pas sur les ethnies, Elisabeth, sur les difficultés de la vie, sur l'amélioration du quotidien, sur l'inégalité. C'était la majorité océanienne, elle était portée à un moment donné pour ça. Il y a eu le constat de ce qui s'est passé. Il y a eu des événements terribles qui sont passés. Aujourd'hui, je pense que le pays n'a plus besoin qu'on parle de majorité, mais d'unité de l'ensemble des partis politiques. La population a besoin d'espoir et j'espère en tout cas insuffler cela au niveau du Congrès.
Alors on ne parle plus de majorité, tout de même hier on a entendu l'expression majorité de reconstruction. Est-ce que c'est ce qui unit les partis qui vous ont soutenu ? Est-ce que c'est un terme que vous acceptez ?
Reconstruction, la Nouvelle-Calédonie en a besoin. Aujourd'hui en fait, il faut former une majorité, pas une majorité, je veux dire une unité avec l'ensemble des partis politiques, une majorité aussi qui permette la reconstruction, la relance du pays. Et ce n'est pas avec une partie de l'hémicycle que je souhaite que cette unité se fasse, mais avec tout le monde.
Alors vous êtes élu du plus petit parti représenté au Congrès, hein, vous le disiez tout à l'heure, vous avez 3 sièges seulement. Est-ce que ça vous donne une légitimité suffisante pour présider la première institution calédonienne ?
La légitimité, nous l'avons eue, Elisabeth, lors des votes de provinciales en 2019. Donc oui, j'ai tout à fait ma place. Et hier encore, certains se sont portés sur ma candidature avec une volonté de reconstruire et de travailler ensemble.
Mais alors tout de même, vous bah là aussi, vous faisiez allusion, en ironisant d'ailleurs dans votre discours hier, on vous a parlé, on vous a appelé parti charnière, opportuniste, girouette. Est-ce que vous ne donnez pas raison finalement à tous ces qualificatifs, puisque quelles que soient les circonstances depuis 2019, avec trois sièges encore, vous arrivez à être toujours dans la majorité, voire au pouvoir avec cette présidence du Congrès ?
On nous a surnommés de beaucoup de choses, effectivement, oui, je l'ai dit en parlant de girouette. Je pense aujourd'hui qu'il est important de voir que nous avons simplement une volonté de faire avancer le pays. Et je pense que c'est le travail que nous menons depuis 2019 qui a été reconnu, notamment par les Calédoniens et par nos collègues. Et nous sommes toujours dans cette dynamique, c'est l'intérêt du pays avant tout.
Avec les indépendantistes, vos relations ont été un peu compliquées. Vous avez siégé pendant un moment dans le groupe UCF-LNKS et nationaliste avant d'en partir. Vous avez fait partie, on le disait, de cette majorité océanienne avant de faire battre Recomitant hier. Est-ce que c'est depuis le 13 mai que vos relations se sont dégradées avec les indépendantistes ?
Il n'y a pas de rupture avec les indépendantistes, notamment au niveau de notre travail, au niveau du Congrès. Il y a eu des choses qui se sont passées au niveau du pays. Nous avons pris acte. Vous savez, nous n'avons que 5 ans d'expérience.
Vous n'avez pas pris acte seulement, vous avez condamné.
Oui, nous condamnons toutes sortes de violences, les exactions qui ont été les destructions, mais aussi toutes ces violences qui sont silencieuses et qu'on n'entend pas, les inégalités, le fossé qui sépare en fait aujourd'hui les Calédoniens. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une réalité. La réalité, c'est que la Nouvelle-Calédonie est à terre, les Calédoniens ont besoin d'espoir et qu'il faut maintenant... nous revoir tous pour pouvoir en fait envisager l'avenir ensemble.
Le mois dernier, en juillet, vous aviez publié une lettre ouverte et Pierre-Chanel Toutougourou, le président du groupe UCF-LNKS, il faisait allusion hier en disant qu'il y avait eu des alertes de votre part. Dans cette lettre, vous laissiez entendre que vous alliez prendre toutes vos responsabilités. C'était déjà une mise en garde à l'égard des indépendantistes ?
Dans cette lettre ouverte, nous avons simplement demandé au FNKS de prendre ses responsabilités, de rétablir l'ordre dans le pays. Et effectivement, nous avons pris nos responsabilités hier en réintégrant notre voix médiane au sein de l'hémicycle du Congrès.
Parce que vous avez l'impression qu'ils ne vous ont pas, que leur réponse n'a pas été à la hauteur ou qu'il n'y a pas eu de réponse, qu'ils ne vous ont pas entendu quand vous leur avez lancé cet avertissement ?
Je pense qu'ils nous ont entendus, mais ils ont probablement... aussi des choses à voir entre eux. Je n'ai pas à commenter cela.
Avec les partisans de la France aussi, les relations sont compliquées, puisque au tout début, en 2019, vous aviez contribué à voter pour eux. Ensuite, les choses se sont dégradées. Est-ce que depuis hier, ça va mieux ?
C'est la question.
C'est la question.
Ça va mieux, mieux avec tout le monde, Elisabeth, vous savez. On n'a pas d'ennemis, hein, il faut travailler ensemble. Non, mais encore une fois, c'est l'expérience aussi que nous avons en politique a démontré que nous avons essayé de construire un équilibre que personne n'en voulait, au final. Aujourd'hui, je pense avec ce qui s'est passé le 13 mai, tout le monde se rend compte que la voie médiane existe bien et qu'il est temps maintenant de mettre nos considérations de côté et de regarder l'avenir ensemble.
La voie médiane, on va en parler parce qu'effectivement, on ne comprend pas forcément. En Calédonie, traditionnellement, en tout cas depuis 40 ans, il y a deux blocs, les indépendantistes, les partisans de la France. La voie médiane, c'est quoi ? C'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu des deux, c'est une indépendance mais pas maintenant, c'est une indépendance association, c'est une très large autonomie. Franchement, on a de la peine à comprendre.
Alors, notre trajectoire de société par rapport à l'avenir institutionnel n'a pas changé. C'est ce fameux non pas maintenant, c'est le oui partagé, c'est le partenariat en fin de compte avec la France. C'est comment en fait on met un point final à la décolonisation et qu'on assure avec la France notre protection et notre sécurité à tous les niveaux. La voie médiane, Elisabeth, c'est simplement faire en sorte que ces deux grands blocs historiques puissent enfin discuter ensemble et qu'on trouve une voie, la meilleure issue possible pour le pays. Ce n'est ni plus ni moins que ça.
Mais ce n'est pas forcément une indépendance avec partenariat. Ça peut être aussi un maintien dans la France avec une large autonomie.
Nous défendons le partenariat avec la France. C'est en tout cas le projet de société que nous avons écrit, que nous avons remis au ministre Darmanin, jusqu'au document martyr que nous avons martyrisé jusqu'au bout avec nos propositions. Nous et je l'ai même également présenté à l'ONU. Le partenariat avec la France, pour nous, c'est la seule issue possible qui puisse aussi régler, et de manière positive, la question de la décolonisation.
Mais pas forcément dans l'indépendance, ou si ?
L'indépendance, c'est un terme qui est utilisé par certains, nous préférons le partenariat.
Il y en a qui disent indépendance avec partenariat, c'est pour ça que les choses sont parfois un peu compliquées. D'autres, notamment chez les partisans de la France, souhaitent aujourd'hui une plus grande provincialisation, redonner le pouvoir aux provinces, comme c'était le cas en 1988 avec les accords de Matignon. Est-ce que c'est aussi une option qui pourrait rentrer dans une voie médiane, en quelque sorte ?
Nous avons une vision pays. L'hyperprovincialisation n'a pas fait partie des axes de notre projet. Nous sommes pour vraiment une vision pays où il faut justement qu'il y ait plus, où la force, les décisions se prennent au niveau du pays et qu'on puisse ensuite les. En fin de compte, on ne veut pas vraiment de changement sur ce qui a été décidé.
Mais par rapport à 88.
C'est le renforcement vraiment de la Nouvelle-Calédonie.
Mais
collectivité, pardon.
Ce qui avait ramené la paix en 1988, c'était bien cette création des provinces. Est-ce que ça ne peut pas être une piste aujourd'hui encore de laisser. Chaque province se gérer un peu comme elle le souhaite pour
non, parce que
pour chacun se trouve mieux chez soi.
Pour un vivre ensemble, Elisabeth, il faut qu'on ait une vision pays, une vision globale. Le chacun pour soi, chacun dans son coin, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, on arrivera encore à des événements que nous ne souhaitons pas.
En tant que présidente du Congrès maintenant, quelles vont être vos priorités ? Comment, au-delà de cette volonté de faire travailler tout le monde, ces derniers temps, l'ambiance dans l'hémicycle était extrêmement tendue. Est-ce que votre élection va permettre de faire retomber un peu la pression et les passions des uns et des autres ?
Oui, j'y veillerai, Elisabeth. Moi, j'ai trois axes de travail aujourd'hui. Le premier concerne l'institution du Congrès, revoir son organisation, le dynamisme, les différents recrutements. Deux, c'est la coordination avec le gouvernement, parce qu'il y a un travail inter-institution à effectuer, notamment à travers tous les projets et les propositions de texte qui doivent arriver. Et trois, c'est l'avenir institutionnel. En étant à la tête de la présidence du Congrès, je prendrai l'initiative, parce que vous savez qu'au Congrès, il y a toutes les forces politiques réunies. Il est peut-être temps pour nous de nous voir, de discuter et d'envisager en fait les discussions pour l'avenir, puisque le dialogue aujourd'hui n'a pas été repris.
Et depuis 2019, on s'aperçoit que le Congrès, qui devait être un peu une force de proposition et faire avancer un certain nombre de réformes, les choses ont souvent bloqué. Hein. On parle de la réforme du Roam, par exemple. Les choses n'avancent pas au Congrès. Comment ça se fait ? Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à créer une façon de travailler qui va être plus productive, peut-être plus efficace ?
Aujourd'hui, il y a un couloir qui se présente à nous. Vous avez effectivement parlé du RUAM. Je pense aussi à la TGC, à la CLR. Il y a des gros enjeux qui nous attendent. En tant que présidente, je formule l'espoir que j'arriverai à mettre autour de la table les différents chefs de groupe pour envisager les positions de chacun et définir un consensus. Vous savez, sur les mesures qui ont été prises dernièrement pour la CLR, c'est effectivement le consensus que j'ai réussi à trouver avec mes collègues, notamment sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas une tâche facile, il faut se l'avouer. Il faut se l'avouer, chacun a ses positions, chacun aussi ses postures. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment une volonté de chacun d'aller au-delà et de voir l'intérêt du pays. Et j'ose espérer qu'avec ma bonne volonté et aussi ma bienveillance, j'arriverai à faire en sorte que nous puissions travailler sur ces grands chantiers qui nous attendent.
Alors paradoxalement, la situation catastrophique de la Nouvelle-Calédonie, la situation économique épouvantable, aide malgré tout à ce que les gens se concentre sur le plus urgent et le plus nécessaire. On l'a vu la semaine dernière avec le plan qui a été adopté conjointement par les élus du Congrès. Avec un groupe s'est abstenu, mais globalement, le plan a été adopté. C'est une solution pour vous, cette aide massive de l'État qui a été demandée par les élus du Congrès ?
Le plan quinquennal, la résolution qui a été proposée sur les 500 milliards, c'est Calédonie Ensemble qui l'a porté. Effectivement, une large majorité s'y est prononcée. C'est un travail que nous devons quand même saluer. Nous l'avons soutenu. C'est une proposition qu'il ne faut pas en fait renier. Hein. Nous avons besoin aujourd'hui, il faut se le dire, de l'aide de l'État pour pouvoir relever la situation du pays. Et il n'y a qu'une seule façon. Une seule manière de le faire, c'est en étant, nous, les élus du Congrès, unis et porter justement ce message au niveau de l'État. Et en tout cas, pour les dossiers qui nous attendent, j'espère pouvoir poursuivre le travail dans cette voie-là.
Avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, quelles sont les relations que vous envisagez? Il n'y a plus de représentants de l'éveil océanien maintenant, en plus, au gouvernement.
Non.
Ça change quelque chose?
Nous n'avons plus de représentants puisque M. Mouliava est revenu au Congrès. Il n'y a plus de majorité océanienne, elle n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement qu'on rétablisse... il faut en fait une coordination entre le Congrès et le gouvernement. J'espère prochainement pouvoir rencontrer rapidement le président du gouvernement pour justement évoquer tous les différents dossiers qui nous attendent. Je formule l'espoir que tout se passe bien.
Au Congrès, on ne l'a pas dit encore, vous êtes la première femme à accéder à ce poste de présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On a remarqué aussi que dans le bureau, il y avait 11 femmes sur 13 membres du bureau. Ça tient à quoi? Et est-ce que finalement, est-ce que vous ne devriez pas, on parle toujours de la parité, est-ce qu'elle ne doit pas être respectée là aussi?
C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, mes collègues et moi, nous sommes beaucoup investis dans le travail parlementaire qui nous attend. C'est un signe positif pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a des femmes avec de grandes responsabilités. On est là pour le pays et on souhaite faire en sorte qu'il faut le relever.
Et les hommes ne l'ont pas trop mal pris d'être mis en minorité de façon aussi flagrante?
Va. Je pense que ça va, c'est
vous
accepté.
Vous n'avez pas encore eu de réflexion. Est-ce que vous croyez une reprise des discussions sur l'avenir? Vous disiez que c'était quand même l'une de vos priorités, l'un des axes en tout cas comme présidente du Congrès. Sur quoi ça doit porter? Est-ce qu'un accord global qu'on évoquait avant le 13 mai est encore possible aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut serrer les problèmes et aller au plus urgent?
Je pense qu'il faut cerner les problèmes, aller au plus urgent, parce que là, la Calédonie est à terre, la situation financière et budgétaire est catastrophique. Effectivement, le président Emmanuel Macron avait envisagé une rencontre le mois prochain. Moi, je militerai, Elisabeth, pour que le président puisse venir, puisqu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour nous, les conseillers, de se déplacer à Paris, sauf si Paris prend en charge nos billets. Ce qui est sûr, c'est que l'initiative qui nous anime, c'est que nous puissions ne serait-ce que se voir entre différentes formations politiques et de faire le point. Je ne peux pas, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire s'il y a une solution qui est envisageable, mais à un moment donné, la situation de la Nouvelle-Calédonie est telle que nous la connaissons, il faut au moins se mettre autour de la table, discuter, se comprendre et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire.
Avec les tensions quand même qui existent, on ne va pas se le cacher depuis le 13 mai, même si vous espérez pouvoir réunir tout le monde, avec les tensions qui peuvent exister, avec notamment l'Union calédonienne, vous pensez que tous les élus vont pouvoir se réunir autour d'une table et discuter de l'avenir sereinement?
On peut, quand on a de la bonne volonté et qu'on y croit, c'est possible. Et en tout cas, c'est ce que je pense.
Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir les élections provinciales avant la fin de l'année, avant le 15 décembre? C'est ce qui est prévu pour l'instant. Le président de la République a laissé entendre qu'elle pourrait être reportée. Vous, votre position, vous croyez qu'il va falloir les faire impérativement avant la fin de l'année ou qu'il faut se donner une respiration plus longue?
Tout dépend de ce qu'on veut faire, Elisabeth, et tout dépend aussi est-ce qu'à un moment donné, comme à la France, on veut une clarification par rapport à la situation. Nous espérons effectivement qu'il y ait que ces élections, parce qu'en fait, elles doivent se tenir au plus tard en fin d'année, qu'aujourd'hui, il est important qu'on clarifie tout ça au niveau des différents représentants. Mais encore une fois, nous verrons bien ce qui sera décidé.
Auquel cas, vous auriez un mandat à la présidence du Congrès de 3 mois, sauf si vous êtes réélu après.
Oui, tout à fait. Je l'ai dit hier, c'est peut-être un mandat que de 3 mois, mais je ferai de mon mieux, en tout cas, pour l'honorer.
Et sinon, on joue les prolongations de l'accord de Nouméa avec une mandature à rallonge.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? On verra ça plus tard. Par rapport à ce que faisait votre prédécesseur Rocomiton, on sait qu'il était très, très ouvert aux relations avec les autres parlements de la région notamment. Et puis, il y a ce fameux mémorandum avec l'Azerbaïdjan. On en est où ? Est-ce que c'est un document qui a une valeur ? Et le cas échéant, est-ce que vous allez le résilier ?
C'est un point que je dois aborder, notamment parce que je me pose effectivement la question sur ce mémo qui a fait beaucoup débat, parce que sachant que c'est Madame Nesline qui l'a signé et qu'elle n'était ni présidente ni vice-présidente. Donc pour moi, il n'y a aucune valeur juridique, que cet acte est nul et non avenu. Maintenant, je vérifierai auprès des services, en tout cas, mais il n'est pas dans mes prérogatives, en tout cas, de donner suite à cela, étant donné qu'il n'y a pas eu non plus de validation du Congrès.
Vous-même, quand vous l'avez appris après sa signature, vous avez été étonnée, choquée, surprise ?
Oui, oui, choquée. Nous avons même communiqué là-dessus, puisque pour nous, c'était... ce n'était pas un acte pour le faire, puisque Madame Nesline n'était ni mandatée pour cela, et que le Congrès, surtout, n'a pas été informé.
Et les relations avec l'Azerbaïdjan, c'est quelque chose que vous validez, ou ça vous choque également que la Calédonie puisse se rapprocher d'un pays comme celui-là ?
Non, je ne valide pas du tout.
Velma Faleao, présidente, toute nouvelle présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vos priorités, là, dans l'immédiat, vous devez tout mettre à plat au Congrès, vous devez tout réorganiser, ça va être quoi ?
Oui, on va faire un point et une mise au point et on ira vers le dynamique du Congrès.
Prochaine réunion, elle est déjà fixée, la réunion de la séance publique du Congrès ?
Ah non, pas encore.
Pas encore.
Je pense que ça viendra bientôt.
La première que vous présiderez véritablement.
Oui.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci Elisabeth.